tous. C'est une grande journée aujourd'hui, puisque nous avons le privilège d'avoir parmi nous Suzanne et Jean Fauvel. Que Dieu les bénisse. Amen. Suzanne, c'est la première des deux que j'ai rencontrée. J'avais fait un long voyage avec une bande d'Américains, dont un s'appelait Joe Portal. Et on était arrivés de Lausanne sur les quais de la Seine à Paris. C'était l'été, il faisait chaud, on dormait dans le bus, c'était l'horreur. Une voiture est arrivée le matin vers, je pense, 7h30, 8h. Et on a roulé, et je roulais avec ces Américains qui étaient conduits par des Français. Je ne connaissais pas ces gens, ça ressemblait à la mafia. Ça faisait tout drôle d'être avec des gens que je ne connaissais pas, pour rouler dans une direction que je ne connaissais pas. Je me rappelle toujours, on a passé par le tunnel Saint-Cloud. Vous vous rappelez ce truc, c'était hyper moderne à l'époque, parce que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était en 71, on était jeunes et beaux. On est toujours beaux, mais on est tellement jeunes. Et puis j'arrive là dans une belle maison qui était en location, c'était Gigi Graham, je crois si je me souviens bien, qui avait ça et qui l'avait mis, donc la fille de Billy Graham qui l'avait mis à la disposition de Teen Challenge. C'est Bill Williams qui dirigeait tout ça. Et voilà que la première personne que je rencontre, c'était le petit déjeuner, tout avait été préparé. Et c'est Suzanne que je vois avec son immense sourire et qui se présente et me dit « C'est moi la directrice !» Je dis « Ça commence bien !» Et ça a été 7 ans. 7 ans de miracles, 7 ans de bonheur, 7 ans de pleurs, 7 ans de rire, 7 ans... On a beaucoup ri quand même, hein. Et de choses extraordinaires. On a vécu des choses magnifiques pendant 7 ans avec ce Teen Challenge. Et puis, quelques jours après, je ne sais pas si c'est quelques jours ou quelques semaines après, on nous dit on va aller chercher Jean Fauvel à Paris. Alors, on est parti, je ne sais plus avec qui, mais on est arrivé, je crois que c'était vers le stade de foot, le stade, pas le stade de France, il n'existait pas encore, mais c'était le Parc des Princes là-bas. C'était là, dans ce coin-là. Et puis, on a attendu dans un bistrot que Jean Fauvel arrive. Et voilà, un jeune homme qui arrive. Bien propre sur lui, cravate et tout. Nous, on n'était pas du tout ce genre-là. Mais impeccable et tout. Il arrive et puis les présentations sont faites. Et voilà que j'ai rencontré Jean Fauvel. Jean Fauvel, j'ai parlé de lui même en dormant. Un jour, j'étais en Inde avec un missionnaire et il me dit « Mais qui c'est Jean Fauvel ?» Je dis « Comment ça, tu connais Jean Fauvel ?»« Mais oui, parce que tu en parles toutes les nuits. » Je dis « C'est pas possible. » Il me dit « Si. » Il m'a tellement impressionné que je parlais même de lui en dormant. Et pendant 7 ans, on a travaillé pour le Seigneur sur les quais de la Seine, on a fait des tournées au travers de la France, on a passé les films La Croix et le Poignard, on a eu des groupes musicaux comme les Gastons, comme les Enfants de Dieu, je ne sais plus qui, et on a même eu la star américaine qui avait joué le rôle de Judas dans Jésus-Christ Superstar, on a eu celui qui jouait Fripounet au Congo, non ça c'est une petite blague, on a eu vraiment des gens extraordinaires, on a eu David Wilkerson, on a rencontré tous ces gens extraordinaires, mais surtout ce qu'on a vécu c'était dans les cafés-bars, c'était dans le quartier latin, d'aller chercher des garçons et des filles qui se droguaient ou qui avaient des problèmes de prostitution et on a fait un boulot, je crois, vraiment béni, et tel point qu'au début, les églises nous critiquaient parce qu'on était tellement différents. Puis après, elles ont voulu nous copier, mais entre nous, elles n'ont jamais réussi à faire si bien que nous. Hein? Jamais, c'est vrai, il faut reconnaître. Il y avait vraiment quelque chose dans cette affaire de Teen Challenge, inspirée par David Wilkerson de New York. Et je ne vais pas prendre plus de temps pour vous parler, je vais vous laisser avec eux. Donc je vais d'abord vous présenter Suzanne, puisque c'est elle que j'ai rencontrée en premier. Ce n'est pas une question de galanterie, parce que maintenant la femme, ça c'est égal, on est égaux, on est tous égaux d'ailleurs. Bonjour, monsieur ou madame, madame, d'accord, on est tellement égaux, on ne sait plus. Hein? Non, ce n'est pas vrai. C'est aussi un peu de la galanterie. Je te laisse Suzanne, que Dieu te bénisse, prends tout ton temps. Jusqu'à 5 heures cet après-midi, si tu veux. Non. Merci.
Je meurs d'envie. Je meurs d'envie. Hein. Non. C'est vrai qu'il faudrait quand même une fois faire un long métrage de toutes ces choses extraordinaires qu'on a vécues, parce qu'il ne faudrait pas que ça se perde trop. Hein. N'est-ce pas, Michel? On a déjà noté des choses. Michel vous a raconté beaucoup de choses, mais il y en a encore énormément. Et c'était unique. C'était unique. Mais comme de la manière dont vous... Quand vous prenez un livre dans votre main, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par tourner les pages. Et de la même manière, notre Dieu là-haut, notre Créateur, il se permet de tourner les pages de nos vies. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans la vie de Jean et de moi-même. Nous avons tourné des pages, nous avons eu des enfants, on a eu 5 garçons, maintenant on a 4 belles-filles, on a 7 petits-enfants, et on a tourné des pages. Et un jour, le Seigneur a mis sa main très fort sur moi, c'était en 82. Et là, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Le Seigneur a mis sa main sur moi pour le peuple juif et Israël. Et ça, du temps de Tinchaland, on ne faisait pas de différence entre juifs et non-juifs. On témoignait de notre foi en Dieu, droit devant nous, et puis droit dans nos bottes, et puis voilà. Mais il s'est passé quelque chose de très fort dans ma vie ce jour-là, qui m'a bouleversée et qui a fait que le Seigneur a pu commencer à écrire une nouvelle page dans ma vie. Et je voudrais juste le résumer, parce que là, il faut vraiment résumer aujourd'hui, par un verset qu'on trouve dans Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois de ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau, etc., etc. Il est magnifique ce texte, mais ça a été le début d'un roman d'amour pour moi. Bien sûr, j'ai refilé le virus à mon mari, mais en fait, j'ai enfoncé une porte ouverte. Et pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Et ce texte, je voudrais le mettre juste en parallèle, juste le temps d'un clin d'œil ce matin, avec le texte d'Esther, puisque nous sortons de la fête de Pourim pour nos frères juifs. Et c'est ce livre d'Esther qui en est la cheville forte. Et ce livre d'Esther nous cite un verset que vous trouverez vous-même. « Si tu te tais maintenant, lui a dit Mardoché, le salut viendra d'ailleurs. » Et c'est ainsi que se passe ce roman d'amour que nous vivons avec le peuple juif. « Je ne me tairai point pour la cause de Sion, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'églises qui prennent une position pour le peuple juif, qui parlent du peuple juif comme le voudrait le Seigneur. Et on voit que des gens se lèvent qui sont sans foi ni loi, mais qui prennent position pour Israël et qui font honte à nos communautés chrétiennes parce que les communautés chrétiennes ne prennent la plupart du temps pas leur vraie place. J'ai appris parce que le Seigneur me l'a appris. Sinon, je n'aurais pas pu l'apprendre par les livres. Ça n'aurait pas été convaincant pour moi. Mais dans Romains 11, il est dit, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très fort, surtout que l'apôtre Paul nous met en garde à 3 reprises dans ce chapitre. Ne sois pas orgueilleux. Et là, il a prophétiquement parlé à l'Église. Ne sois pas orgueilleux. Et combien l'Église est tombée dans l'orgueil. Oui, très sûrs de nous. Nous sommes très sûrs de nous, mais nous oublions nos frères juifs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et le Saint-Esprit, ce jour-là, quand il m'a parlé, il a dit, faites passer la sève. Oui, entre cette racine et les branches que nous sommes greffés au milieu d'eux, eh bien cette sève ne passe pas, ou si peu que c'est complètement inexistant dans certains domaines. Alors faites passer la sève, mais tous azimuts, m'avait-il dit le Seigneur. Et alors je me suis dit, mais comment je vais faire? J'ai tous mes petits gosses autour de moi, parce qu'ils étaient petits à l'époque. Et finalement, eh bien, j'ai commencé comme ça, droit devant moi. Je me suis dit, bon, ben, je vais déjà m'adresser à l'Israël, la véritable Israël qui est physique, matériel, en France, Qui c'est ? Eh bien, c'est les gens de l'ambassade d'Israël en France, pardi. Dans nos églises, on entend souvent parler de l'Israël de Dieu, mais il y a quand même des autorités israéliennes en France aussi. Et je me suis dit, je veux les connaître, je veux les rencontrer, et même je voudrais en faire de mes amis. Et ça, c'était un peu révolutionnaire à l'époque. C'était vraiment unique. Je n'avais personne, je ne savais pas à qui m'adresser pour essayer de tenter cette chose. Mais vous savez, vous le savez très bien, vous, quand il y a une volonté, eh bien, Dieu ouvre des chemins, même là où il n'y en a pas. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre à exprimer ma gratitude, parce que je me suis vite rendu compte que quand Paul s'est adressé à Timothée, dans les temps à venir, dans les derniers temps, il y aura quoi ? Il y aura beaucoup de violence, mais aussi d'ingratitude. Et j'ai dit, voilà, là on est, nous les chrétiens, dans toute leur splendeur, des ingrats. Et je ne voulais pas être une ingrate à l'égard du peuple juif et d'Israël. Pas du tout. Et je me suis mise au travail. Mais je ne peux pas vous raconter grand-chose aujourd'hui parce que Jean, il va commencer à bouillir là. Mais j'ai vu hier soir que vous aviez des roses magnifiques. Je ne sais pas qui c'est qui les apporte, ces roses, mais elles m'ont beaucoup touchée. Parce que pour moi, les roses sont devenues une arme d'amour auprès du peuple juif. Et j'ai commencé à apporter des fleurs à des amis que je me suis faite à l'ambassade d'Israël. Alors essayez d'apporter un bouquet de fleurs à l'ambassade d'Israël. C'est un parcours du combattant, parce qu'il faut d'abord passer par la sécurité et tout et tout. Et je me suis dit, je m'en fiche. Même si j'attendrai une demi-heure à la sécurité, je veux apporter des fleurs à ces hommes et ces femmes qui sont constamment à moitié lynchés, surtout au moment des années 2000. Et j'ai décidé d'apporter des fleurs, des roses à ses amis. Et je vous assure, c'était quelque chose d'unique. Et je vous encourage à le faire encore aujourd'hui. Vous aurez une occasion le 15 mai. Et j'en parlerai à Michel et Michou encore au repas. Parce qu'il y a des choses graves qui se passent. Vous savez, il y a des démons qui sont répandus sur notre terre en grande quantité de nos jours. Et c'est vraiment quelque chose de grave qui se passe au niveau d'Israël et particulièrement dans notre pays. Une contestation énorme, vous le savez dans les médias, mais ça pullule d'idées pour contester le peuple juif et Israël de nos jours. Et là, il faut des armes et des belles armes comme les fleurs. Mais je vous en dirai un peu plus tard. Eh bien, je ne vais pas me rallonger sur l'ingratitude, mais je voudrais juste encore dire une petite chose. Tu permets, Jean ? Juste une petite chose. Le temps d'oser est arrivé. Le temps d'oser, c'est O-S-E-E. Le temps d'oser, ou oser dit, je l'attirerai au désert, mon peuple. Alors, j'étais toute contente, toute fière de moi, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, bon, ben, j'ai trouvé la solution. Nous, les chrétiens, nous avons des mains plus ou moins propres, plus ou moins sales, donc on n'y touche pas au peuple de Dieu. C'est Dieu qui s'en occupe, puisque lui-même veut l'attirer au désert des nations et au désert. Et tout d'un coup, le Seigneur m'a dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors j'ai dit, oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire ? Ben, dans le désert, il y a de la rosée. Et la rosée est discrète. Elle ne vient pas sonner à votre porte le matin. Ça y est, j'ai fait mon boulot. Non ? Elle est discrète. Elle arrive discrètement et elle repart discrètement. Et c'est toute une autre page sur laquelle vous pouvez écrire des lignes, des magnifiques lignes. Parce que, avec notre discrétion, nous pouvons apporter cette rosée, ces gouttes au peuple juif de nos jours dans notre pays. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est que dans le désert, il y a des oasis de paix que le Saint-Esprit veut utiliser. Et vous, à Lamblor, ici, vous êtes une de ces oasis. Et le Seigneur va vous utiliser puissamment, si vous le souhaitez, si vous le recherchez, pour le peuple juif. Mais j'en dirai pas plus là non plus. Alors, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de courage, et je vous laisse l'image d'une petite carte. C'est quoi ? C'est une pièce de puzzle. Vous êtes, chacun d'entre vous, une pièce de ce puzzle que le Seigneur veut utiliser. Et quoi de plus gênant, de plus contrariant, quand on a les grands puzzles de 1000, 1500 pièces et plus, quand il en manque une au milieu? Comment on fait pour compléter un puzzle où il manque juste une pièce? Alors, voilà, vous êtes une de ces pièces précieuses. Vous n'avez l'air de rien, vous êtes discret, mais vous êtes précieux pour cette œuvre de Dieu parmi le peuple juif et Israël. Que Dieu vous bénisse.
Et Suzanne, vous comprenez pourquoi Bill William avait nommé Suzanne directrice pour le centre de réhabilitation? Parce que comme elle est là, elle était déjà, c'est-à-dire remplie d'amour, remplie de douceur et puis du Saint-Esprit de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Bon, on a fait des bêtises aussi, mais c'est rien du tout. Dieu, on a fait rire Dieu plus d'une fois avec ça. Et puis, on a fait notre bout de chemin. Regardez, ça fait toutes ces années, on est encore des amis. C'est magnifique. C'est magnifique. Et maintenant, je vous présente Jean Fauvel. Jean Fauvel, mon frère Jean Fauvel, que Dieu te bénisse. Là, je sais qu'en ce moment, il y en a qui tremblent. C'est Bill William qui écoute là-bas. Ah oui, bien sûr. Et puis, non seulement Bill William là-bas, mais aussi Manu Pradey qui écoute. Et puis d'autres, il y a Liliane, mais plein de gens qui vous écoutent. Et là, ils vont entendre de nouveau la voix de Jean Fauvel. Et ça fait des années qu'ils ne l'ont pas entendu. Et ça va leur faire chaud au cœur. Je suis sûr qu'ils ont déjà les yeux mouillés. Que Dieu vous bénisse. Jean, à toi. Dieu te bénisse.
Merci. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des enfants de 12 ans ici. Alors, tu vas venir ici. Il y a des plus petits, mais venez ici devant aussi. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une Julie parmi vous? Où elle est, Julie? Viens là, Julie. Et Emmanuel, où il est? Comment? Ou Samuel, c'est ça? Où il est, Samuel? Ah! Alors, j'aimerais d'abord demander au Seigneur de bénir ses enfants. Seigneur, tu es celui qui t'occupe des enfants. Tu sais ce qu'a été la vie d'un enfant. Et c'est pourquoi je te demande de les bénir, de poser ta main sur eux et de les inspirer, et surtout de te révéler à eux comme celui qui sait prendre soin de ceux qu'il aime. Merci Seigneur. Amen. Alors je voudrais, où elle est la maman de Julie et Emmanuel? Non, Samuel. Voilà. Alors, j'ai entendu, parce que j'étais dans la chambre à côté, et j'ai entendu la maman dire, « Julie, dépêche-toi, on est deux, il y en a deux derrière toi. » Et j'ai dit, « Ben, formidable, j'ai aussi vécu ça à la maison. » Et puis après, je n'ai pas entendu ce qui s'est passé, mais j'ai dit, « Seigneur, bénis cette maman qui est courageuse et qui invite ses enfants à faire ce qu'il faut pour que tout se passe bien. » Alors je voulais aussi honorer la maman. Voilà. Merci Seigneur. Pourquoi est-ce que je vous parle de la jeunesse? Parce que d'abord, je suis là avec des jeunes. Et moi, j'ai blanchi un tout petit peu. Mais j'ai été jeune aussi. Et parfois, chez les jeunes, il peut arriver une tragédie. Et on ne sait pas. Tu sais ce que c'est qu'une tragédie? Toi, oui. Oui, tu ne sais pas. Alors, je vais te l'expliquer. Une tragédie, je vais utiliser un autre mot qui s'appelle une catastrophe. Alors, peut-être que le mot catastrophe, tu ne le comprends pas non plus. Alors, je vais parler d'un accident. Je vais parler de choses qu'on n'a pas prévues et qui arrivent et qui nous font mal. Et les enfants, quand il arrive des tragédies, sont les premiers touchés. Et c'est difficile de pouvoir accompagner un enfant et un jeune qui a vécu, ou des jeunes qui ont vécu une tragédie. Parce qu'on n'a pas été dans leur tête, on n'a pas été dans leur vécu, on n'a pas été avec eux. On ne sait pas comment ils ont pu réagir et comprendre. Et tout d'un coup, on n'a plus de mots pour les aider. N'est-ce pas? Alors je vais vous parler juste de deux mots, en deux mots de ce qui me concerne. Bien sûr, je suis toujours un homme cravaté, parce que j'ai été éduqué comme ça. Et je me suis retrouvé en 1969 à Paris, après mai 68, à l'université de Vincennes, parce que je faisais mes études à l'école pastorale. J'avais décidé, après 5 ans de service comme stagiaire et comme pré-ministère, puisque j'étais pasteur stagiaire, j'ai décidé de faire 2 années complémentaires dans cette école pastorale parce que je venais de vivre quelque chose qui m'avait complètement bousculé. Et je voulais échapper au regard et à la pression qui était autour de moi. Et j'en ai pas beaucoup parlé, je sais même pas si Michel le sait. Mais j'ai vécu, à la fin de mon ministère dans le nord de la France, une épreuve à laquelle je n'étais pas préparé. Je suis tombé brusquement dépressif. J'ai eu, comme je te le disais, grand garçon, j'ai eu un accident. Un accident dans ma tête. Un accident qui est survenu sur moi et je ne savais plus quoi faire. Mes idées n'arrivaient plus à croire ce que Jésus disait dans l'Écriture. Je le disais aux autres, mais moi, j'arrivais plus à le vivre pour moi. Un pasteur dépressif, en 1969, ça ne se comprenait pas. C'est impossible, voyez, que dans notre société aujourd'hui, un pasteur puisse devenir dépressif. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a été de travers dans sa vie? Comment est-ce que... C'était toutes les questions qu'on pouvait se poser. Puis finalement, ça m'est arrivé. Et j'ai été 2 ans, 2 ans et demi sans explication. Et sans réponse. Mais j'aimais toujours au fond de mon cœur. Alors c'est pour ça que je te le dis, grand garçon. Si même des fois t'es malheureux, d'accord ? Si même des fois il y a comme des accidents et des choses qui ne vont pas, la seule chose que tu peux garder dans ton cœur, c'est l'amour de ton papa, l'amour de ta maman. Mais c'est aussi de savoir que au-dessus de tout ça, Jésus, son amour est toujours vrai. Il t'aime. Tu te rends compte ? Jésus, il nous aime, il nous abandonnera jamais. Et finalement, eh bien, cette dépression m'a amené à découvrir, je ne l'ai compris que plus tard, qu'on ne peut pas seulement voir ce que les hommes recherchent, une manière dont Dieu interviendrait d'une manière surprenante dans leur vie pour tout changer, tout guérir, mais que Dieu aussi se préoccupe des détresses de ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas seulement les psychiatres ou les psychologues, mais Dieu s'en occupe. Et c'est ça qui finalement a commencé à bouleverser ma vie, parce que j'ai eu une réponse de Dieu. À un moment le plus inattendu, je devais retourner dans l'église où j'étais tombé dépressif. Imaginez, paf. On me demande d'aller prêcher dans l'endroit où que j'avais fui, non pas parce que j'aimais pas les frères et sœurs, ils m'aimaient tous, et ils savaient même pas ce qui m'était arrivé. Je ne leur avais jamais dit. Et voilà que le Seigneur me dit, tu vas aller leur parler de moi de nouveau une fois. Je dis, Seigneur, je peux pas continuer. Donne-moi une réponse. Et la réponse a été celle-ci, celle du psaume 27, du livre des psaumes, le livre des Juifs. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Que peuvent me faire des hommes? Et ça a été ma réponse. Je me suis dit, ça y est, c'est ce que j'attendais. Et le résultat, quand j'ai commencé à réfléchir sur le sujet et bâtir un petit commentaire qu'on appelle une prédication, au moment où je devais en parler devant mes frères et sœurs qui étaient réunis, ils étaient un peu plus nombreux que vous êtes aujourd'hui, mais tout d'un coup, au moment même où j'étais en train de parler, l'angoisse la plus horrible, l'attaque la plus pernicieuse de l'adversaire est venue devant moi et m'a dit « C'est fini, tu t'en sortiras pas. » Et en une fraction de seconde, tout d'un coup, c'est comme si le Seigneur me disait « Qu'est-ce qui compte ? C'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu as peur, ou c'est ma parole qui compte ?» Et j'ai compris d'un seul coup, comme notre frère Michel vous le dit toujours, la seule parole qui demeure, c'est la parole que Dieu a laissée. Et ça a été une guérison dans ma vie. Moi, pentecôtiste, je comptais sur les interventions ou la manière dont Dieu ferait les choses. Et puis finalement, eh bien, il m'a demandé de m'appuyer sur sa parole. Vous rendez-vous compte? Plus sur mes sentiments, mes impressions, mes choses que je vois, la manière dont j'observe les hommes. Et quand je me suis retrouvé à Vincennes, à l'université, pour essayer d'étudier la psychologie, parce que, marqué par les épreuves de mon âme, je voulais comprendre les jeunes. Et qui j'ai vu à l'université? Moi qui ne supportais pas les gars bizarres avec leurs accoutrances les plus horribles, parce que c'était mai 68, alors il fallait le manifester d'une manière tellement ostentatoire ou visible, n'est-ce pas? Que tout d'un coup, je me suis retrouvé à l'amphithéâtre avec des gars qui fumaient des joints, avec des gars qui prenaient de l'acide, et de tous ceux-là qui étaient complètement azimutés, mais qui venaient pour passer du temps dans ces endroits-là et qui se mêlaient à tous les étudiants, et puis qui étaient parmi eux, il y avait pas mal d'étudiants aussi touchés de cette manière. Et quelques semaines après, le Seigneur me dit, dans ma prière, et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais reprendre un ministère pastoral? Où vas-tu m'envoyer? Et le Seigneur me dit, au fond de moi-même, j'ai eu cette conviction, tu seras dans un travail social. Moi, pasteur, me retrouver dans un travail social, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et c'est là que le Seigneur a utilisé un jeune de notre église, quand j'étais dans le Nord, et il m'a dit, Jean Fauvel, c'était Alain Rofidal. Et il m'a dit, Jean Fauvel, je t'appelle, je suis militaire, mais je vais venir à Paris et je voudrais t'inviter parce qu'il y a un pasteur américain qui veut faire un travail parmi les jeunes. Et je suis sûr que c'est cela qui va peut-être être un chemin pour toi. Rendez-vous compte? Et je suis allé dans cette première rencontre à l'Armée du Salut. Suzanne m'a accueilli, je ne la connaissais pas. Et c'est là que finalement, j'ai entendu cette parole et ce défi avec, je ne sais pas si Alperna était là, mais en tous les cas, il y avait le responsable européen, le nom m'échappe à l'instant, mais Howard Falls et d'autres frères qui étaient venus avec Bill Williams et qui nous ont lancé ce défi de travailler parmi les jeunes déboussolés, complètement désemparés. Alors, ça a été mon appel. Mais ça va vite. Mais j'aimerais venir à quelque chose qui est cette fois-ci une parole de l'Écriture. Et pour moi, quand je me suis retrouvé pour la première fois dans ce travail, les jeunes que j'accueillais au café-bar, j'avais retiré ma cravate, bien sûr, j'essayais de m'arranger comme je le pouvais pour ne pas leur faire peur, parce qu'on me prenait pour un flic. Alors, mais finalement, eh bien, ces jeunes, et c'est ce qui m'a bouleversé, ils m'ont dit ceci, mais comment ça se fait que toi tu comprends ce qu'on vit? Comment ça se fait que toi qui n'as pas touché à la drogue, qui n'as pas touché à tout ce qu'on a vécu nous, tu nous comprends, comment ça se fait ? Et là, j'ai compris, dans ma tête, que le Seigneur avait permis que je sois broyé au fond de mon esprit, de ma personnalité. Je n'ai plus de point de repère pour apprendre à les comprendre. Frères et sœurs, chers amis, vous les enfants, quand il y a des épreuves, ça n'est pas sans raison. Dieu veut nous amener plus loin, n'est-ce pas ? Et alors j'aimerais dire, puisque je veux prendre une parole de l'Écriture, c'est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 9 et au verset 38, il est dit ceci. Verset 36 même. « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. » N'est-ce pas ? Chers amis, chers frères et sœurs, il y a des détresses qui ne se voient pas au sens humain du terme, mais des détresses que Dieu voit. Et il parle des brebis abattues, découragées, qui sont sans berger. Elles ont besoin d'un berger. Alors, le bon berger, vous l'avez appris les enfants, vous le savez, le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Hein ? Tu le sais, toi ? Oui ? Tu savais ça ? Que Jésus donne sa vie pour ses brebis ? Pour ceux qu'il aime, n'est-ce pas ? Hein, vous le savez ? Eh bien, il donne sa vie et il est un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et ce qui me permet de mieux comprendre et qui m'a permis de mieux comprendre aussi cet aspect, j'en ai parlé dimanche dernier dans l'église où j'étais, et j'avais reçu ce texte qui était celui-ci. Donc, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, pour lui, il ne s'agit pas seulement de voir, mais il n'était pas seul. Et alors, il dit à ses disciples, à ceux qui l'accompagnent, et même aux enfants, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont compris, les disciples ? Alors on va prier Dieu. On va lui dire envoie des ouvriers, n'est-ce pas ? C'est ça ? Oui. Il les a mis d'abord avec un fardeau sur les épaules. Vous ne voyez pas les brebis qui sont désespérées, mais je vous les mets sur le dos. C'est-à-dire, commencez à prier pour celles-là, même celles que vous ne voyez pas. Et puis la deuxième chose, le chapitre qui suit, heureusement que la Bible à l'origine n'avait pas de chapitre, parce que dans le fond tout se suivait, mais ça se suit ici quand même. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir les malades et toute infirmité. Michel sait bien ce que c'est que cet appel, n'est-ce pas ? Et en fin de compte, il les appelle, après leur avoir dit, écoutez, portez sur vos épaules la charge de celui qui, de ces hommes et ces femmes qui ont besoin de trouver un berger. Et ce qui m'a permis, en réfléchissant un peu à tout ça, je donnerai deux éléments qui m'ont interpellé. J'ai encore 5 minutes, hein, c'est ça, Michel ? Oh non, non, mais je ne veux pas quand même prolonger. Oui. Et alors, finalement, ce qui s'est produit pour moi, c'est que j'ai regardé dans le passé et j'ai essayé de comprendre ce que Jésus a vécu. Vous savez, quand vous lisez les évangiles, qu'à 12 ans, c'est pour ça que j'ai pris les jeunes de 12 ans, là, Jésus avait la conviction qu'il était déjà appelé à faire l'œuvre et le travail de son Père. ses parents l'avaient perdu, le recherchaient. Et quand ils l'ont retrouvé, ils lui ont dit « Mais pourquoi tu ne nous as pas suivis ? Pourquoi tu as suivi ton propre chemin ? Tu es resté là, on te cherchait partout ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais à partir du jour où il avait, et il était convaincu de cette conviction, puisqu'un âge, un garçon de 12 ou 13 ans est responsabilisé dans la communauté juive, on le reconnaît comme un adulte. C'est-à-dire on le reconnaît comme quelqu'un de responsable, capable de comprendre la charge qui peut être sur ses épaules. Et le résultat, c'est que de l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans, rien ne nous est dit sur la vie de Jésus, sinon qu'il est le fils du charpentier. Il a observé Jésus, il a regardé, il a vu tous les travaux. Et quand je regarde votre communauté, quand je regarde ce que vous avez construit, parce que j'étais jamais venu dans ce beau local, Jésus a pu admirer aussi ce que faisait son père. Il a écouté les conseils, mais un jour, excusez-moi, son père n'était plus. Son père humain n'était plus. Et là, ça a été quand on perd. Ceux qui ont été avant nous, on se rend compte qu'on est de nouveau, qu'on est seul. Et là, Jésus a vécu certainement une crise. Lui, le premier de sa famille, devenant le nouveau chef de famille. Vous comprenez ? Il a vécu toutes les années comprenant les épreuves et la difficulté de la maman et ainsi de suite. Il a pris sur ses épaules et il pouvait parler, lui en tant que berger, comme celui dont les hommes et les femmes ont besoin d'un berger. Il a endossé sur ses épaules la charge d'abord d'une solitude face à une famille qui n'avait plus de père. Et puis la deuxième chose qui m'a aussi impressionné, c'est qu'au même moment où son ministère devait commencer, il y a quelqu'un qui l'a précédé. Quelqu'un qui était à ses côtés, mais dont il ignorait, bien qu'il sache que c'était un cousin ou un parent très proche, mais il ne connaissait pas réellement la fonction ou la charge, sinon celle que Dieu lui a mise sur les épaules, et il rencontre Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, celui qui était son prédécesseur ou son précurseur, lui, Jean-Baptiste, a su, au moment où il exerçait son propre ministère, qu'il devrait laisser la place à quelqu'un d'autre. Et quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et le ministère de Jésus, je dirais, a commencé quand soudain, eh bien, non seulement il a perdu les appuis de sa famille, les appuis de ce qui lui était humain, mais il a perdu aussi celui que Dieu avait envoyé avant lui pour qu'il accomplisse le travail de son Père. Et le même message que Jésus a délivré, c'était celui-ci, comme Jean-Baptiste, repentez-vous, changez de vie, car le royaume de Dieu est proche. Alors nous, humains, on parle du royaume de Dieu, n'est-ce pas ? Le royaume de Dieu est proche. Et je termine, ou j'aborde la fin, en disant ceci. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. On le dit souvent. Mais le royaume de Dieu, c'est là où Dieu décide et gère dans le domaine céleste et dans le domaine du monde cosmique. Dieu gère les choses à sa manière. Le royaume des cieux, c'est là où Dieu gouverne. Et pour entrer dans le royaume des cieux, il faut des hommes et des femmes changés pour entrer dans la dimension de la manière dont Dieu gouverne les choses. Et c'est cela que j'ai appris dans ma vie chrétienne en fait, et dans ma vie de disciple, de croire que Dieu gouverne bien les choses et qu'il forme les hommes et les envoie quand il veut. Et pour terminer, puisque j'en arrive à la fin, quand il appelle ses disciples, vous savez ce qu'il fait avec eux ? Il les désigne non seulement dans leur fonction, mais il leur donne des noms. Des noms qui vont déterminer ce qu'ils vont être dans ce monde pour représenter le royaume de Dieu que les hommes ont besoin de recevoir. Et ce matin, j'ai cette conviction que Dieu vous donne des fonctions qui correspondent au nom qu'il vous a donné. À la charge qu'il vous a donnée. C'est-à-dire que Dieu bâtit avec des hommes qu'il forme et qu'il rend malléables. Et pour cela, il a besoin du caractère, de la personne et de ceux qu'il a façonnés. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'épreuves. Les épreuves de la vie de Jésus, même en tant que jeune, les épreuves de la vie de Jésus en tant qu'adulte, et les épreuves de la vie de Jésus parmi son peuple, qu'il a rejeté pour certains, eh bien, ont été les chemins par lesquels l'œuvre de Dieu s'est faite parmi les hommes, parce que, en définitive, il a donné la vie pour les siens. Le sceau du royaume de Dieu, ça a été sa vie qu'il donne en sacrifice, n'est-ce pas ? Alors voilà, je vous laisse avec cette charge. Le Seigneur vous a appelé, le Seigneur vous appelle, il change vos noms, mais vous donne une nouvelle charge parce que son exemple, sa personne, c'est qu'il a été jusqu'au bout. Jean-Baptiste a été jusqu'au bout, Jésus a été au-dessus de tout et il s'est donné lui-même pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que je n'ai pas été trop long.
Merci beaucoup. Ça vous a fait du bien, ça vous a béni. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous parle comme ça ce matin, mais il est en train de nous préparer à quelque chose. Alors, ça vient. On le sait, on voit comment ça bouge, on voit un peu dans quel sens, mais bon, que Dieu soit béni. En tout cas, nous, on tiendra fidèles à ce que le Seigneur nous a donné. Amen. C'est-à-dire à sa parole. La parole de Dieu, c'est le principal. Que Dieu soit glorifié. Alain, on va chanter un chant. On va, pendant ce temps, on va faire la collecte et après, on va se retrouver au château. Je vais demander à Benjamin, si tu veux bien. Merci.
Yeshua, 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 J'ai juste un sujet à vous remettre dans la prière, puisque Suzanne a parlé de nos frères et sœurs juifs. Nous avons cheminé depuis 7 ans avec un couple qui ne savait pas qui étaient les évangéliques, qui étaient juifs, et qui, dans une rencontre, a dit « Mais je n'ai jamais entendu parler des chrétiens comme eux. Est-ce que vous en connaissez ?» Et quand on a entendu cela, Suzanne est allée voir ses amis, on leur a laissé notre adresse. Et à partir de ce jour, ce sont devenus des gens proches qui ont cherché à comprendre et à connaître ce que c'était que des chrétiens. Et le résultat, le Seigneur est intervenu dans la vie de ces personnes qui nous ont dit en dernier lieu, il y a encore peu de temps, depuis qu'on vous a rencontrés, nous qui étions agnostiques ou sans Dieu ou sans la foi, eh bien, aujourd'hui, nous croyons. Mais je ne sais pas et je n'ai pas eu l'indiscrétion de leur demander « Mais est-ce que vous croyez en Jésus ?» Mais ils ont lu le livre des Actes, ils ont lu les évangiles. Et curieusement, cet homme, celui qui a été, l'objet même d'une grâce de Dieu, il a été guéri instantanément d'une tumeur à un bras, alors qu'il devait voir le chirurgien et le lendemain matin, il était guéri. Cet homme, aujourd'hui, est dans un coma après un accident vasculaire cérébral parce qu'il est quand même d'un certain âge. Et la raison pour laquelle nous devons être à 3 heures à Paris, c'est que nous devons aller à l'hôpital pour prier pour lui. Les médecins ont dit la seule alternative, c'est que soit il s'en va et il est en train de s'en aller, ou alors il faut un miracle parce que ses reins sont en partie bloqués. Et voilà pourquoi nous allons prier pour ses amis et en particulier pour ce Michel Finifter et son épouse. Et c'est pourquoi nous allons aller sur place. Alors je le remets devant vous dans la prière. Seigneur, nous te remettons Michel. Tu vois cet homme, tu vois notre frère, tu vois le besoin de son corps. Seigneur, s'il est là dans ton projet de le toucher dans son esprit, dans ses pensées, pour qu'il devienne celui qui vit un nouveau miracle, fais-le, Seigneur. Mais ce que nous désirons, c'est que même dans ce sommeil, dans cette situation, il découvre la personne de celui qu'il a tant espéré et aimé. Merci, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Amen.